Wesh, salut à tous, bienvenue pour ce sixième point sur la table. Et un podcast un peu particulier parce que cette fois-ci on vous a ramené un invité. Et pas n'importe quel invité puisqu'on a avec nous un kiné du sport, c'est comme ça qu'on dit ?
C'est ça.
Kiné du sport, sportif émérite et ancien compétiteur dans le MMA. Donc ce soir vous n'allez pas entendre que des conneries sur des points sur la table. Donc je suis comme d'habitude avec Valentin, mon partenaire.
Ouais, salut, bah, en fait Antoine, tu vas faire les présentations dans le détail de tout le monde parce que vous vous connaissez bien tous les deux.
Ouais,
moi, voilà. Moi,
c'est
ça. Je découvre, je rencontre.
C'est ouais, ça. Allez. Bah écoute, notre invité donc c'est Rémi. Salut Rémi.
Salut à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout après ta, juste après ta dure journée de kiné quoi, donc on apprécie.
Ouais, merci beaucoup.
Et du coup en fait on s'était dit que ce serait sympa de t'inviter parce que dans notre podcast en fait on essaye d'avoir, enfin on essaie de parler de sport, de pratiques sportives et de ce que ça peut apporter dans la vie de tous les jours mais en tant qu'amateur en fait. Donc on s'est dit que si tu pouvais nous éclairer un peu sur certaines questions, mm-hmm. ce serait plutôt pas mal. Du coup, moi, j'ai préparé des questions.
Ouais.
Je les ai faites sur deux thèmes. Sur ton parcours en tant que pratiquant de MMA, quoi.
Ouais.
Et ensuite, sur tes compétences de kiné.
D'accord.
Donc, j'ai quelques questions. On va essayer de faire ça vite et bien parce qu'on va pas non plus te retenir pendant 3 heures.
Ok, vas-y, enchaîne direct.
Ok. Juste parle-nous un peu de ton parcours sportif.
Alors, mon parcours sportif, j'ai commencé les arts martiaux tout jeune par le judo. Je pense comme.
Comme beaucoup.
Voilà. Ensuite, je suis allé vers le karaté quand j'étais gamin, vers 8-9 ans, jusqu'au milieu de l'adolescence. Et au karaté, ce qui me manquait, c'était le contact. Donc, je me suis tourné vers la boxe, puis le jiu-jitsu brésilien, qui est un sport de combat qui se pratique essentiellement au sol. Et je me suis retrouvé dans le MMA par la force des choses.
D'accord. Ok, et donc tu as combattu en MMA ?
J'ai 3 combats professionnels, 2 victoires, 1 défaite, et j'ai beaucoup de combats amateurs en pancras.
D'accord.
Qui est la version édulcorée du MMA, la version française où il n'y a pas de frappe au sol.
Ok.
Parce que le MMA reste malheureusement interdit en France.
D'accord. T'as quel âge à l'heure actuelle ?
30 ans.
Et quand tu combattais, c'était il y a longtemps ? C'était...
Ouais, j'ai fait mon dernier combat professionnel en 2009.
D'accord, voilà. Ah ouais, effectivement. Ah,
okay. Alors que j'étais en dernière année d'études de kiné. Et voilà, faire les deux en même temps, c'est compliqué.
Ouais, j'imagine. Ouais. Parce que justement, quand tu veux vraiment pratiquer sérieusement et que tu veux faire de la compète en MMA ou en pancras, mm-hmm. c'est quoi ? C'est entraînement 2 fois par jour ?
Ouais, à l'époque où je combattais, où on combattait, on s'entraînait 2 fois par jour.
D'accord.
Ouais. Ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut s'entraîner dans différentes disciplines. Il faut s'entraîner au sol, il faut s'entraîner en boxe, il faut s'entraîner en lutte. Il faut travailler la condition physique, donc ça prend pas mal de temps, oui.
D'accord, ok. Ok.
D'accord, bah justement, quand tu faisais comment tu jonglais justement entre les études et la préparation, tout ça, comment tu gérais ça ?
C'était compliqué, c'était, ouais. Voilà, je sortais peu le soir, voilà, j'essayais d'avoir une hygiène de vie à peu près correcte, donc j'allais en cours la journée, le soir je m'entraînais, et voilà.
Il n'y a jamais des moments où t'as un peu explosé en plein vol et genre tu t'es mis une énorme race et ce genre de truc ?
Non, j'ai toujours essayé d'être à peu près sérieux. Mais voilà. Après, mon dernier combat, je le perds par KO. C'est peut-être pas. Voilà, c'est peut-être
KO
pas pour rien.
KO dur, quoi. Vraiment séché, quoi.
Un KO technique.
KO technique, ouais. Ouais. Ok. D'accord. Et c'était toujours en t'entraînant au Candice, le camp de.
Voilà.
Enfin, le club de la
Garde. Toujours.
D'accord, ok.
Ah bah, moi, j'en profite parce qu'on est allé direct dans les questions, mais je voulais juste savoir entre vous deux, votre rencontre, c'est Candice, c'est quoi c'est...
Non, en fait, notre rencontre, pas du tout. En fait, enfin, Rémi, ça fait combien de temps que tu t'entraînes au Candice maintenant ?
Ça fait. Plus de 10 ans.
D'accord, ok. Disons que tu subis le joug de Rémi, quoi. De Denis, pardon, autant pour moi. En fait, parce que moi, je m'entraînais au Candice.
Ouais.
Je me suis entraîné là-bas pendant presque 2 ans. Et un moment, en fait, où je me suis salement blessé à la nuque, enfin, on avait déjà parlé sur le podcast, il y avait Denis, donc, qui gérait le club, qui avait envoyé sur sa mailing list un mail pour dire que Rémi, donc, qui était... pratiquant dans le même club, venait d'ouvrir son cabinet de kinésithérapie, du sport notamment, qui était basé sur l'éducation. Okay. Et c'est comme ça, en fait, tout simplement, que je suis allé dans le cabinet. Même si à la base, c'est sa sœur Cécile qui travaille avec lui qui m'a soigné.
Ok.
Et je suis revenu voir Rémi une fois, l'année dernière, pour un souci à la cuisse, c'est parti de là, quoi. Et vu que je suis tout le temps complètement poisseux, que je suis tout le temps blessé, Rémi m'a pas lâché. Enfin, c'est moi qui ai pas lâché Rémi, en fait, inversement, quoi. C'est un peu l'enfer, mais bon, voilà, moi, c'est comme ça, quoi. Est-ce que tu avais des points forts et des points faibles en tant que pratiquant ? combattant.
J'étais clairement plutôt à l'aise au sol.
Ouais.
Donc tout ce qui est soumission, travail de position au sol. J'aimais bien le pied-point et ma faiblesse c'était certainement les transitions entre les phases de debout et les phases de sol, la lutte. Mm. J'étais un mauvais lutteur.
D'accord. Voilà. Okay. Est-ce que je me rends pas du tout compte du niveau d'adulte en France? Est-ce que c'est un truc qui pêche vraiment ou
le niveau, pardon, excusez-moi.
Le niveau d'adulte en France en général, quoi. Parce que je sais que par exemple
le niveau de la lutte.
Ouais,
non, on a de grands champions en lutte. On a eu des champions olympiques. On a de très bons clubs, très bonnes structures. Encore faut-il se donner les moyens d'aller s'entraîner de manière spécifique en lutte pour le combattant de MMA, et c'est assez difficile.
D'accord. Ok. Parce que tu peux pas juste te permettre en fait de t'entraîner dans un club de lutte pour ensuite essayer de traduire ça en MMA. C'est pas tout à fait la même chose.
Tu peux, en tout cas, voilà. Je pense que c'est intelligent d'aller s'entraîner et de faire ses bases dans un club de pure lutte.
Ouais, d'accord.
Vraiment, pour être fort en MMA, je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller se frotter au meilleur de chaque discipline. D'aller boxer dans les clubs de boxe, d'aller lutter dans les clubs de lutte, d'aller faire du sol dans les clubs de sol.
Ouais.
Et après, s'entraîner de manière spécifique en MMA dans son club.
Mais ça, c'est quoi? C'est un truc que t'as expérimenté ou c'est un constat que tu fais après coup en disant j'aurais peut-être dû plus faire ça à l'époque?
Alors, à mon époque, et je pense que c'est aussi ce qui faisait notre force, à moi et aux autres compétiteurs de l'époque, c'est qu'on ne cogitait pas en réalité.
Ouais.
Voilà. Okay. On avait un coach, Denis Stunzinger, un super coach. On le croyait sur parole. On s'entraînait tous les jours, on ne se posait pas de questions. Et puis les résultats, ils étaient là en compétition quand même. Voilà. Okay. Donc parfois, il faut juste mettre le cerveau de côté et puis se faire violence, s'entraîner.
Ouais.
Les résultats sont là.
Justement, quand tu combattais, comment ça se passait dans les combats? Est-ce que tu prends quand même le temps de réfléchir ou ça se fait totalement à l'instinct?
Non, tu réfléchis. Hein.
Ouais.
Tu réfléchis. Hein. Non, vraiment, c'est pas de la bagarre. Hein. Non. En général, avec le coach, on essaye de mettre une stratégie en place qu'on a travaillé avant l'entraînement, en fonction de nos forces, nos faiblesses, en fonction de l'adversaire. Voilà. Non.
Ouais. D'accord. Ok. Donc t'es.
Après, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Donc, donc faut improviser.
Tu te perds dans la situation, ouais, quoi, ouais. Justement, où la stratégie part un peu de côté, ou ouais. Ça arrive.
Bah, en fait, quand on est face à l'adversaire, on se dit pas, allez, là, je vais envoyer un gauche-droite, un crochet, un genou, non. Ça sort, ce qui doit sortir, ça sort. Mais il faut quand même avoir une stratégie, parce que sinon, on va droit au casse-pipe.
Ouais.
Ça va être une expérience quand même vachement intense, quoi, de te retrouver dans cette situation-là, où tu dois être concentré à 100%, et puis en même temps, genre, devoir te lâcher, enfin, ça va être vraiment particulier.
Ouais. On a peur, enfin, en tout cas. Peut-être pas tous les combattants. Moi avant de combattre, avant d'entrer dans la cage, j'avais peur. Après, une fois dedans, une fois que le combat est lancé, non, on oublie tout et on y va, let's go. Mais ouais. C'est vrai que c'est quelque chose.
D'accord. Ouais. Tu combattais où en MMA, vu qu'en France
J'ai combattu principalement en Allemagne.
Ouais.
Pour les combats professionnels, c'est en Allemagne.
D'accord, ok. Alors, c'est... Moi, j'ai remarqué, quand je faisais des sports de combat, quand je faisais de la taille ou du MMA, quand j'en parlais autour de moi, j'avais toujours la même question à la con qui venait, et je me demandais, est-ce que toi aussi, tu as eu droit, par exemple, des questions genre, putain, tu fais du MMA, tu dois défoncer tout le monde dans la rue, ou alors, est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, de tomber sur des gens, parce que tu pratiques un sport de combat, tu t'appelles, enfin, des mecs mitonnent ouvertement sur leurs fausses compétences,
ouais,
c'est déjà arrivé, quoi,
oui, bien sûr. Après, je pense qu'on a... On a un vrai travail en tant que pratiquant, en tant que compétiteur peut-être encore plus, d'éducation. Le MMA, c'est encore très mal connu. Maintenant un petit peu plus, mais les gens, voilà, ils connaissent le MMA par YouTube, par les best-of des plus gros KO, machin, ouais, etc., ouais. etc. Donc ils ont vraiment l'impression que c'est un sport violent, pratiqué par des sauvages, etc. Donc voilà. Donc non, moi si on me demande est-ce que tu te bats dans la rue, je dis non. Puis je me bats pas dans la rue. Non, il y a un vrai travail d'éducation à faire.
Ouais.
Après, voilà. Rencontrer des charlots qui se disent champions du monde, de machin, de trucs.
C'était déjà arrivé.
Ouais,
bien sûr. Ouais. mais ça, c'est
pas que dans le MMA, c'est dans tous les sports. C'est...
Ouais, bien sûr.
Ouais, c'est partout.
C'est comme ça.
Mais
je pense que chez les artistes, ça doit être pareil.
Ouais, un peu, ouais.
C'est vrai que on peut un peu retrouver ce genre de profil des fois.
Il y a un côté pour devenir un peu pote ou proche, ouais. Essayer de trouver des atomes crochus qui n'existent pas forcément, des choses comme ça, quoi.
Ouais,
c'est partout, quoi.
Et c'est pareil, le fait, justement, de pratiquer du MMA, parce que la France a eu un rapport assez particulier avec ce sport.
Mm-hmm.
Comme tu dis, ça a dû être un vrai travail d'éducation. À chaque fois que t'en parlais, t'as dû à chaque fois sortir, j'imagine, le même discours pour leur essayer de faire comprendre aux gens que c'était pas de la boucherie.
Ouais. Mais je pense que... Pour en revenir au début de ta question, je pense que la France a toujours un train de retard. Ça s'est vu avec l'arrivée de la boxe thaï. Toi qui as pratiqué la boxe thaï en France, c'est pareil. Ça avait vraiment mauvaise presse au début, avec le karaté pareil, avec le MMA là pareil, alors que dans tous les autres pays européens c'est autorisé. Voilà. Donc, pourtant on sait que, et ça je te dis ça en tant que kiné du sport, on sait que c'est un sport qui est moins traumatogène que le rugby par exemple, que la boxe anglaise où les mecs pendant 12 rounds se prennent des coups plein la gueule. Ouais. Pour la MMA tu te prends pas trop de coups. Parce que quand tu t'en prends 1, 2, 3, 4, il y a un moment, l'arbitre il arrête, ou t'es KO, ou tu te fais ouvrir.
Mais ça justement c'est un truc, je trouve, par rapport à mon entourage en tout cas, des gens qui observent le MMA, de voir les coups qu'ils enchaînent au sol, justement ils ont une vision extérieure en se disant mais c'est hyper violent, ils voient ça beaucoup plus violent que la boxe, alors que justement comme tu dis à la boxe il y a ce côté où on se relève, on va compter, on va prendre le combat et on prend beaucoup plus de coups,
on prend plus de coups en anglaise parce que c'est plus dur de mettre un mec KO en anglaise, c'est des gros gants, c'est pas pareil. Et puis en plus les vidéos que voient tes potes, c'est souvent des vidéos qui sont partagées sur internet, c'est toujours les vidéos les plus impressionnantes. Et voilà, en général, non, il y a un arbitre qui est là, quand le mec commence à se prendre 2-3 pastèques au sol et qu'il se défend pas, l'arbitre il arrête le combat. Voilà. La plupart des combats ne se terminent pas par KO d'ailleurs, même. Il y a une part qui se termine par décision, une part qui se termine par soumission. Voilà.
Tu penses qu'on arrivera à ce que ce soit égalisé un jour ou l'autre, d'après toi ?
Un jour ou l'autre, certainement. En tout cas, c'est mal parti, quoi.
Du coup, je voulais rebondir sur un truc, c'est que toi qui étais vraiment à l'intérieur du truc, et maintenant, t'as toujours un lien avec en tant que du sport, et t'as des connaissances dessus. Est-ce que, donc, d'une part, voilà, en l'ayant vécu avant, est-ce que tu t'as vu justement la résistance en France des institutions par rapport au MMA, et est-ce que tu peux en parler par rapport à quelqu'un qui était vraiment à l'intérieur du truc ? Et est-ce que maintenant, t'es toujours, comment dire, entre guillemets, pas engagé, mais est-ce que tu t'éduques encore un peu de manière active ou pas?
Alors je me suis jamais engagé, en tout cas d'un point de vue associatif, j'ai jamais rejoint de fédé, etc. Ça se fait, il y a des gens qui militent pour, d'ailleurs qui malheureusement se tirent un peu parfois dans les pattes, tu sais.
Entre associations et
toujours, toujours pareil. Après non, moi le seul taf que je fais c'est vraiment c'est sur le terrain, c'est en rencontrant des gens, en en parlant autour de moi, en essayant de véhiculer une belle image de ce sport. C'est tout. C'est tout. Après, franchement, moi, si c'est jamais reconnu, je m'en fous. Je veux dire que... Enfin, comment dire ça ? C'est un sport de passionné. Si t'as envie de pratiquer, tu pratiques. On a le droit de pratiquer, de s'entraîner. Il y a des compétitions, c'est juste qu'il n'y a pas de frappe au sol. Et puis voilà, si t'as envie de faire tes preuves, tu vas à l'étranger, tu combats. Ça me chagrine pas plus que ça, quoi.
Et justement, t'as dit un truc intéressant par rapport à cette histoire de fédération, comme quoi ça se tire entre les pattes. J'ai l'impression que, déjà, c'est assez de bordel au niveau des fédérations, même au niveau du pied-point, j'ai entendu qu'il y a pas mal d'histoires de ce côté-là, mais aussi entre les clubs eux-mêmes, quoi. J'ai l'impression que c'est...
Je sais pas, bon, après, c'est comme dans toutes les structures, il y a toujours des rivalités entre les clubs, ça, moi, je trouve ça plutôt sain, même à la limite. Entre les fédés, c'est un petit peu plus désolant, parce qu'il y a plusieurs fédés de MMA qui ont essayé de voir le jour, et qui se tirent un peu dans les pattes au lieu de s'unir, et voilà. En plus, il y a vraiment rien à gratter, quoi, mis à part des licences. C'est toujours un petit peu triste.
Parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est pas les grosses compétitions, les grosses affiches de sport de combat, de boxe, de thaï ou de MMA en France qu'on va gratter beaucoup d'argent. J'ai pas l'impression que
c'est clair.
C'est pas un truc très lucratif, quoi.
Non, complètement. Non, ça n'a pas trop de sens, ça. Donc bon, là on parle des quelques fédés de MMA qui quand même dans l'ensemble font du bon taf, et pour les pratiquants et pour la reconnaissance du sport en France. Il faut aussi parler des fédés de judo, de karaté, etc., des arts martiaux traditionnels qui mettent énormément de pression au niveau des politiques pour que le MMA ne soit pas reconnu, parce qu'ils ont de plus en plus de pratiquants qui partent vers le MMA. Et quand on sait qu'on a eu Joanneau qui s'était opposé au MMA, qui était une ancienne karatéka en ministre des Sports, on a eu David Douillet à une époque, voilà. On a eu plusieurs sorties du président de la de l'ancien président de la Fédé de judo, plusieurs sorties médiatiques pendant lesquelles il a vraiment décrié le MMA, quoi.
J'avais suivi ça, c'était bien abusé quand même, ce petit lobby.
C'est vraiment une espèce de propagande, c'est assez irritant, mais bon, c'est comme ça. Et je vais un peu changer de sujet, mais moi c'est un truc qui m'intéresse. Est-ce que tu as un avis sur deux ou la self-défense? Je sais pas si c'est au masculin ou au féminin, enfin on s'en fout. Est-ce que tu as déjà pratiqué ou pas?
Oui.
Ouais, d'accord. Parce que Après, forcément, en tant qu'ancien pratiquant, même totalement amateur, mais quand je regarde des vidéos genre de Krav Maga ou de Systema, où tu vois des exemples de mecs qui se défendent contre des faux agresseurs qui ont des couteaux, je me dis que ça peut vraiment être potentiellement dangereux pour quelqu'un qui pratique et qui... Ça pourrait donner des mauvaises idées, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, complètement. Ça peut être dangereux si c'est mal fait et si le professeur met dans la tête de l'élève qu'il pourra sortir de n'importe quelle situation, s'il fait croire à une petite nana toute frêle de 50 kilos qu'elle pourra se débarrasser de trois agresseurs au couteau, ça peut être potentiellement dangereux.
C'est clair.
Voilà. Donc après, bon, y a des systèmes qui sont plus ou moins sérieux. Le Krav Maga, c'est plus ou moins quand même bien construit. Le système appareil. Après, sur Internet, on voit tout et n'importe quoi avec des mecs qui se déclarent coach de self-defense, qui montrent des techniques complètement loufoques.
Ouais.
Voilà. Non, c'est plus rigolo qu'autre chose.
Ouais. Et puis.
Après, tout pratiquant de sport de combat sait que la meilleure des façons de régler un conflit, c'est de le fuir. Et ça doit être la base de tout enseignement en self-défense. C'est d'essayer à analyser la situation. Essayer de s'en dépêtrir sans échange de coups.
Parce que de toute façon, je me dis que même si tu tombes sur un cours sérieux de Krav Maga avec un bon prof et ce genre de truc, ça demande des années de pratique avant de pouvoir vraiment...
Je pense aussi. Ouais. D'ailleurs, les pratiquants sérieux de Krav Maga vont dans les salles de boxe, boxer, vont dans les salles faire du sol, etc.
Ouais.
Ils se mouillent quand même un petit peu, ils essayent de faire évoluer leur technique. Non, je trouve pas ça si ridicule que ça, moi, le Krav Maga.
Mais après,
c'est pas un truc qui me branche. En fait, moi, ça me branche pas du tout. Après, je pense que les pratiquants doivent s'orienter en fonction de juste de leur goût, de leurs affinités. Après tout, c'est aussi du sport, c'est bien, voilà. C'est bien de bouger, peu importe ce qu'on fait. La danse, du karaté, du judo, du MMA.
Bien sûr, ouais.
Ah, parce que nous, on parlait un peu de ça quand on parlait du sport en général et des gens qui veulent un peu changer de style de vie, qui veulent perdre du poids, des choses comme ça. Y a une grosse tendance qui est partout où tout le monde veut une recette un peu miracle. Je pense que ce dont il parle un peu Antoine dans le self-défense, c'est le côté faire attention à ce qu'il n'y ait pas de recette miracle là-dedans, nulle part en fait.
Exactement.
Tout passe par une vraie pratique. Non, on est d'accord de toute façon.
Il n'y a rien de miracle, ni pour perdre du poids, ni pour performer dans le sport, ni pour décrocher la lune. Le seul truc qui paye, c'est le taf, la régularité, c'est comme ça.
Mais c'est assez impressionnant le nombre de gens en général en fait qui n'ont pas conscience de cette réalité-là, qui attendent quand même toujours la solution, le petit coup de pouce.
Ouais, moi c'est vrai que j'ai déjà rencontré des filles qui en avaient marre de se faire tout emmerder dans la rue. Et qui était là, genre putain, j'aimerais faire comme toi ou j'aimerais faire du Krav Maga, mais je leur disais, genre, mais c'est pas miraculeux quoi, tu vas pas faire un cours de Krav Maga et tous tes problèmes vont s'arrêter quoi. Autant t'acheter une gazeuse directement et tu seras moins emmerdé quoi. Enfin, si c'est ça le souci, tu vois, je veux dire.
Après la pratique des sports de combat, ça donne surtout de l'assurance. Au départ, la nana ou le mec s'inscrit pour la pratique d'un sport de combat et il pense, je vais pouvoir me défendre, le prochain qui me prend la tête, j'en mets une. Mais en fait, ça va lui donner de l'assurance et quand on a de l'assurance, on se fait moins emmerder.
C'est clair, ok. Ok, on va pouvoir switcher sur la question de tes qualités de kinésithérapeute. Pourquoi kiné ? Pourquoi kiné du sport ?
Alors, c'est une bonne question. Pourquoi kiné du sport ? Parce que j'ai fait des séances de kiné gamin, parce que j'avais envie de bosser dans le sport, parce que j'aime le contact humain. C'est venu un petit peu tout seul.
Alors moi, j'ai envie de poser des questions les questions bêtes en fait. Moi j'ai jamais foutu les pieds chez un kiné en fait. Et donc j'aurais savoir si tu peux juste présenter le présenter un peu la profession, ce que tu fais, vraiment faire une petite définition, un petit corollaire et après on repart vraiment dans.
Alors la kiné, qu'est-ce que c'est ? La kiné, la kinésithérapie. Kinésithérapie, kinésio en grec c'est le mouvement, thérapie c'est la thérapie. Donc, c'est la thérapie par le mouvement. Donc qu'est-ce que je fais toute la journée ? Je soigne des gens. Je soigne des gens qui viennent avec des pathologies multiples et variées. Le domaine de la kiné, il est très large. On peut faire de la neurologie, de la kiné respiratoire, de la réadaptation à l'effort, etc., etc. Moi, je fais surtout de la kinésithérapie du sport. Donc, je soigne toutes les blessures liées au sport. Ça peut être des lésions musculaires, des entorses, des suites de fractures. Ça peut être pour du renforcement musculaire. Ça peut être toutes sortes de choses. Les moyens sont multiples et variés. Et le moyen principal, c'est de faire bouger les gens.
D'accord.
Tu parlais
vu ça un peu en arrière.
tu parlais de neurologie, quoi. Il y a un lien entre kiné et.
Bien sûr. Il y a des infections neurologiques, comme les AVC, par exemple, ou la neurologie centrale, comme les personnes en fauteuil, les paraplégiques, les tétraplégiques. Ils ont besoin de kiné.
Oui, d'accord. Ok. J'imagine que parce que tu pratiques toujours au sport, tu fais du crossfit, toujours. Tu m'as dit
Toujours du crossfit et des sports de combat.
Ouais, d'accord. Est-ce que ça t'apporte un avantage quelconque, fait d'être kiné
D'être kiné, est-ce que ça m'apporte un avantage Peut-être, mais je m'en rends peut-être pas compte. Mais je pense que c'est peut-être plus facile pour moi d'assimiler des nouveaux mouvements, parce que j'ai peut-être plus conscience de mon corps, comme je fais bouger les gens toute la journée, ouais. Que je me forme beaucoup.
Tu détectes peut-être plus rapidement peut-être. Un truc qui va pas, peut-être. Tiens, un signe de quelque
certainement.
Chose qui...
Ouais. Certainement.
Ouais. Ouais. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour ceux qui souhaiteraient continuer la pratique de leur sport, même s'ils ressentent des douleurs à un endroit ou s'ils sont blessés? Est-ce que le mieux, c'est juste d'arrêter et attendre que ça passe ou,
Il y a des grands principes.
Alors, le mieux déjà, c'est d'aller consulter. Et pas d'aller consulter n'importe qui. Le bouche-oreille en général, ça marche pas mal. Essayer d'aller voir déjà un médecin du sport quand on est sportif et qu'on se blesse, pour que s'il y a un diagnostic de blessure qui doit être posé, qu'il soit bien posé. Ensuite, d'aller voir un professionnel compétent pour soigner, un kiné, si possible, un kiné du sport. Et surtout, ne jamais lâcher l'affaire, ne jamais baisser les bras. C'est pas parce qu'on se pète une fois qu'il faut arrêter. En général, c'est pas la solution. Mmh. Puis parfois, après, on se déconditionne complètement et le retour à l'activité, il se fait jamais, quoi.
Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une blessure t'as beaucoup de pratiquants de MMA, j'imagine,
ouais,
tu connais.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une blessure
non.
chronique?
Non.
c'est ça qui est fâcheux. Ouais.
On m'a souvent posé la question. Non, il y a tout. Dans le MMA, il y a tout. Comme c'est un sport qui est très complet, on a tout. On peut avoir des entorses, on peut avoir des lésions musculaires, on peut avoir une rupture du ligament croisé antérieur. Je pense à ce que j'ai en ce moment. On peut avoir des problèmes de dos. Il y a tout. Des problèmes aux membres sup, aux épaules. Là, j'ai un mec qui devait combattre le 8 avril qui se fait une grosse blessure à l'épaule. Un autre mec là qui doit combattre le 1er avril qui se fait opérer du genou suite à une rupture du ligament croisé antérieur.
Ah ouais.
Voilà, on a tout. Tout.
D'accord. Parce que t'accompagnes, toi, des mecs, tu me disais, qui combattent, justement.
Ouais, ça m'arrive. Alors, du coup, j'ai une autre casquette qui peut être celle de coach aussi. Donc, je me retrouve parfois dans un coin de cage ou de ring. Pour coacher les combattants.
Mmh. D'accord, ok.
Et puis on fait les soins d'avant-combat, d'après-combat.
Les soins d'avant-combat, ça consiste en quoi en fait?
Alors c'est préparer la tête à l'effort, diriger son échauffement avec l'entraîneur. Ça peut être du massage, ça peut être les straps. Voilà.
T'as déjà eu des trucs assez catastrophiques à gérer entre deux rounds?
De trucs catastrophiques, non, parce que c'est jamais catastrophique.
D'accord. Ouais.
Si c'est vraiment catastrophique, on arrête ou l'arbitre arrête. Voilà.
Ouais.
Et t'as déjà eu à pallier à des blessures ou comment dire, comment formuler ça? J'imagine que voilà, quand t'es combattant, tu vas peut-être cacher certaines blessures pour pouvoir faire ton combat. Et soit en tant qu'expert, tu repères des choses que t'as pas forcément dites.
Ce qui est sûr, quand t'es combattant et que tu prends un coup, que t'as mal au genou, faut pas le montrer quoi, sinon le mec il va t'allumer derrière.
Ouais.
Après, est-ce que je l'ai détecté plus que d'autres? Non, peut-être pas.
Mais même pas forcément pendant le combat, mais tu vois, quelqu'un qui a pas envie d'abandonner le combat, qui a pas envie d'annuler le combat plutôt, et qui s'est fait quelque chose à l'entraînement, et qui veut
alors
pas
ça,
que ça se voit trop, comment vous gérez
c'est une très bonne question. Ça, en réalité, j'ai pas trop mon mot à dire. Pas trop mon mot à dire, pourquoi? Parce que je suis tenu par le secret médical. Donc déjà, j'ai même pas, moi, genre, à appeler l'entraîneur ou une fédé ou quelqu'un, dire, écoute, là, le mec... il est pété ou il m'a dit qu'il était pété et il faut pas qu'il combatte. Par contre, je donne toujours mon avis et je conseille et j'oriente.
D'accord. Mais c'est déjà arrivé du coup des choses.
C'est arrivé. C'est déjà arrivé.
D'accord.
C'est déjà arrivé qu'un mec blessé aille combattre quoi.
Oui voilà.
Ça arrive souvent même.
Et donc il y a des parce qu'en fait moi j'ai pensé à ça avec le terme soin avant combat, c'est peut-être essayer de diminuer
bien
une
sûr.
Douleur,
ouais, c'est ce qu'on fait. Que, voilà. Bien sûr, on le fait ça. On le fait.
D'accord.
On le fait. Là, on a un combattant qui devait combattre au Liban là bientôt. Son combat a été annulé. Et lui, là, il est clairement parti avec une épaule en moins. Quoi.
Ah ouais.
Ouais.
D'accord.
Enfin, une épaule en moins.
Mais bien diminuée.
Ah, voilà. Ouais, les gens vont flipper quand ils vont entendre ça. Non, il a son épaule, etc. Juste qu'elle est vraiment moyennement fonctionnelle. Quoi.
Ok. Ouais. Et alors, on en avait parlé une fois pendant une de nos premières séances, mais je pense que c'est intéressant de réaborder le sujet. Ça concerne les étirements.
Ah, c'est très intéressant.
Voilà, justement. Alors, les étirements, est-ce qu'il faut en faire avant? Est-ce qu'il faut en faire après? Est-ce qu'il faut en faire souvent? Pas souvent?
Alors,
c'est quoi la vraie réponse ultime?
J'espère que vous avez 3-4 minutes, là.
Ouais, ouais, on t'écoute.
Je suis content déjà que tu me poses cette question-là.
D'accord.
Et si c'est bien diffusé, tant mieux. Alors, les étirements. Les étirements avant, ça dépend. Ça dépend quel étirement. Quel est le but d'un échauffement avant n'importe quelle pratique sportive? C'est d'aller augmenter la température interne du muscle pour augmenter ses capacités à se déformer. Parce que le muscle, c'est un matériau qui est viscoélastique. C'est-à-dire que sa capacité à se déformer, elle augmente avec la chaleur. D'accord? Donc on a besoin d'aller échauffer le muscle avant un effort pour ne pas se blesser. Le problème d'un étirement avant l'effort, quand il est prolongé, c'est que quand on vient étirer le muscle, on vient aussi étirer tout le paquet vasculaire. Et donc le muscle se retrouve moins bien perfusé, moins bien vascularisé, et sa température interne, elle a tendance à diminuer. D'accord ?
Ok, ouais.
Donc c'est vraiment pas du tout ce qu'on a envie de faire, parce que ce qu'on a envie de faire avant un entraînement, c'est de faire augmenter la température intramusculaire pour augmenter la capacité du muscle à se déformer. Donc je ne m'étire pas avant pour cette raison-là. Pour une autre raison, c'est que si je tire trop sur l'élastique, je vais perdre en capacité de retour élastique et je serai moins performant. Et pour une troisième raison, c'est que quand je m'étire avant l'effort, j'étire aussi les nocicepteurs, qui sont les récepteurs à la douleur. Et donc je suis moins sensible à la douleur et donc je n'ai pas le frein douloureux en début d'entraînement pour me dire « Eh oh là Rémi, tu vas un petit peu fort
okay. ».
Ça, c'est pour ce qui est d'avant. Mais après, il y a d'autres formes d'étirement, qui sont des mouvements, qu'on peut appeler ça, d'étirement dynamique, comme des mouvements balistiques qui peuvent être intéressants à mettre en place, du travail de mobilité globale, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Voilà. Après, il y a certains sports où on est obligé de s'étirer. Les arts martiaux, par exemple, au taekwondo, le mec, s'il ne s'étire pas avant d'aller combattre, il pourra pas lever sa jambe. La danse, c'est pareil, la gym, c'est pareil, etc. D'accord ? C'est des échauffements qui sont bien spécifiques. Pendant, non, on ne s'étire pas en général. Sauf dans le bodybuilding, c'est un cas très spécifique, où les mecs aiment bien s'étirer entre les séries pour créer encore plus de dommages sur la fibre musculaire, avoir encore plus et stimuler encore plus l'hypertrophie. Ça, c'est assez particulier. Après l'effort, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après l'effort, par exemple, après une grosse séance de squat, on a bien bossé les jambes, on a créé du dégât au niveau musculaire. Et le muscle va vouloir s'adapter. Il va se reconstruire en plus fort. Et nous, quand on va aller étirer le quadriceps derrière, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer encore plus de dégâts. Donc si le lendemain je dois me réentraîner, c'est peut-être pas une très bonne idée. D'accord ? Mais par contre, je vais potentialiser mon entraînement. Donc pourquoi pas m'étirer après l'effort ? Mais si on a un sportif qui a un calendrier un peu chargé, etc., etc., ou qui a du mal à récupérer, non, on va pas s'étirer après l'effort.
Okay.
Ça peut avoir un intérêt. Après, je vais pas rentrer dans des trucs un peu trop techniques, mais pour réorienter les fibres de collagène qui ont été endommagées, qui sont désorganisées après l'effort, on va pas rentrer là-dedans. Voilà. Le mieux, si on a besoin de s'étirer, je pense, c'est de le faire en dehors des séances de sport.
Des séances dédiées,
des séances dédiées à l'étirement.
D'accord.
D'accord, ok.
Et tu peux t'étirer complètement à froid chez toi
Tu peux t'étirer complètement à froid sans bourriner, hein, d'accord ?
Sans bourriner, ouais, d'accord.
Okay. Bah, voilà, c'est pas la peine d'avoir fait un footing de 30 minutes pour faire une séance d'étirement.
Ok, d'accord. Ok, c'est bon à savoir.
J'espère que j'ai été clair.
Ah, okay. Ouais, c'était très clair, parfait. Et du coup, je me rappelle... Sur cette même conversation, tu avais embrayé sur les bienfaits du yoga.
Mm-hmm.
Est-ce que tu peux... ouais. Parce que yoga,
alors, le yoga,
on peut pratiquer, c'est quand même assez miraculeux.
Ouais, je me rappelle qu'on avait parlé ensemble parce que t'es raide. Et t'as notamment le plan postérieur donc, qui est assez raide. Le plan postérieur, c'est les ischio-jambiers, c'est la grosse masse musculaire que vous avez derrière la cuisse, le mollet, le fascia plantaire, les muscles fessiers et le dos. Et quand on est très raide, on a tendance à penser que quand c'est tirant 30, 40 secondes, une petite minute 30... on va tous devenir souples et on sera tous capables de lever la jambe au plafond. Or, pour gagner vraiment en longueur sur le muscle, s'assouplir, il faut posturer. Donc, c'est tirer longtemps.
Okay.
Et qu'est-ce que c'est que le yoga ? Ben, en fait, c'est des postures. Et les mecs font des postures pendant des cours d'une heure, parfois plus. Donc, c'est une très bonne méthode pour gagner en mobilité, pour mieux bouger, pour s'étirer.
D'accord.
Yoga, pilates, etc.
Ok. D'accord.
Non, on l'a fait ensemble avec Antoine, on a bien galéré.
On a bien galéré. Mais après, enfin, tu ressors de là, franchement, t'es beaucoup mieux. Quoi. Mm. Si je pouvais en faire plus souvent, je le ferais. Quoi. Tu combattais à combien de kilos quand t'étais compétiteur ?
Alors, j'ai combattu à 70 kilos et à 77 kilos. Voilà. Quand j'ai combattu à 77, j'ai accepté en fait, de combattre dans la catégorie d'au-dessus. Ça m'est arrivé deux fois. Voilà. Parce que j'ai combattu en ce qu'on appelle en short notice. C'est-à-dire...
Ouais.
À la dernière minute, on a fait appel à moi et j'y suis allé.
Ok.
Ok. Parce que donc ton poids idéal c'est 70 kilos plutôt pour quand c'est
À l'époque où je combattais. Hein.
Ouais.
Là je fais 88 kilos maintenant.
Sérieux ?
Ouais.
D'accord. Ok. Bah, tu les planques bien quoi.
Ouais.
Et c'est une galère énorme pour atteindre ton poids.
Ouais, après moi j'ai jamais fait vraiment des régimes énormes, j'ai jamais utilisé ce qu'on appelle le cutting, c'est-à-dire faire de grosses pertes hydriques à la dernière minute, etc. Non, j'ai toujours géré ma perte de poids à peu près progressivement, et puis encore une fois sur mes deux derniers combats professionnels entre guillemets, comme j'ai combattu dans la catégorie du dessus, j'ai pas eu trop de problèmes. Après comme j'ai combattu aussi en grappling, j'ai combattu aussi en pancras, ouais parfois c'était dur de perdre du poids, parfois j'ai triché pour perdre du poids.
Triché, c'est-à-dire.
Et ça m'est arrivé de prendre des diurétiques. Ouais. C'est des médocs qui font pisser. C'est pas la triche du siècle, mais c'est interdit.
D'accord. Ok. Et justement, tu parlais de cutting, donc qui sont une espèce de perte de poids sur du court terme, super super brutal, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Un truc que j'ai jamais compris, parce qu'apparemment c'est un gros souci dans le MMA professionnel. Mm-hmm. Y a des mecs qui pratiquent énormément ça pour atteindre leur limite de poids. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi les mecs ne perdent pas progressivement, en fait, plutôt que de s'imposer ça d'un seul coup.
Alors, parce qu'ils ont envie d'être le plus lourd possible dans la cage et donc le plus fort. C'est un sport à catégorie de poids. Plus on est lourd, plus on est fort. Plus on a des gros muscles, plus on est fort.
Ouais.
D'accord ? La force d'un muscle, elle est proportionnelle à ce qu'on appelle son aire de section, sa taille. Et donc, les mecs, quand ils perdent 8, 7, 8 kilos de flotte la veille du combat, et qu'ils peuvent les reprendre le lendemain dans la cage, ben, s'ils le font pas et que l'adversaire le font, ils se retrouvent avec un mec plus lourd en face.
D'accord.
Et donc plus fort. C'est une stratégie, ça fait partie du fight.
D'accord.
Ça se discute, c'est dangereux. Hein. Il y a un fighter anglais, je crois, qui est décédé hier.
Hier ?
Ouais, hier. Un boxeur thai, ouais, sur un cutting.
Ouais.
D'accord, je savais pas.
Mais j'ai 17 ans, je crois.
Il y a un combattant, pareil, il y a quelques mois, qui est décédé dans une organisation, asiatique assez connue, qui s'appelle le ONE FC.
Ouais.
Ouais. Moi j'ai des copains qui ont déjà fait des malaises dans les saunas avant les fights. Non, c'est dur. Ouais. C'est un sport dur et franchement, la perte de poids ça fait vraiment partie.
T'as un avis en tant que, comment dire,
en tant que kiné?
En tant que kiné, pratiquant,
c'est pas safe.
Le côté santé,
ah,
et,
ouais.
Et enfin, je veux dire, t'as les deux. Non, les deux visions mentalement, je veux dire, ouais. en tant que fighter, je pense que tu dis ouais, je suis invincible, j'y vais ou quoi.
Alors c'est assez compliqué, c'est à dire que ouais. J'essaye toujours de faire la part des choses, et pour moi le principal c'est quand même la santé de mes patients et ou de mes amis parfois et ou de mes athlètes.
Ouais.
Donc j'essaye toujours de faire la part des choses, et les mecs je les entraîne pas à faire des gros cutting, non jamais. Je les entraîne pas à prendre des produits dopants, je les entraîne pas à faire des gros coachings, je les engraine à s'entraîner le plus intelligemment possible, etc.
Ouais.
Voilà. Mais c'est vrai que la frontière entre performance et santé, elle est très mince, quoi. Ouais.
Parce que j'imagine que déjà quand tu cuts, bon, enfin tu dois ramasser, ça va être super pénible. Mais le lendemain, tu restes quand même en état de combattre, quoi. T'as un état de forme quand même, ouais. Qui te permet de.
Ouais.
D'accord, ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Parce que ça me paraît tellement intense, je me dis putain, les mecs le lendemain.
Non, t'es crevé, mais bon, tu sais, c'est. Ouais. Les mecs sont sur notre planète. Hein.
Ouais, bien sûr.
Je te jure.
Voilà.
C'est tellement spécial. Moi, c'est vraiment la question que je me pose. C'est que tu es dans un état, voilà, des mecs qui sont à la limite du malaise ou qu'en font, la veille d'un combat où tu es censé être performant au top, quoi.
Après, voilà, il n'y a pas non plus 100% des fighters qui le font. En France, il y a des mecs qui commencent à essayer de gérer leur poids un peu plus intelligemment que ça. Je bosse avec un nutritionniste du sport qui s'appelle Walid Kevlar. Et qui lui s'occupe maintenant de pas mal de combattants pro sur le circuit, et qui essaye de les maintenir au poids quasiment toute l'année, ou en tout cas juste 3-4 kilos au-dessus du fight.
D'accord.
Ouais.
Ok, donc c'est une espèce de torture sur toute l'année où il doit se restreindre de manger en quelque sorte.
Ouais, après encore une fois, comme ils sont plutôt bien drivés et tout, non.
Ouais.
Là, bon, les mecs sont hyper encadrés toute l'année, ouais, ils sont disciplinés.
Un truc qui m'avait surpris en voyant les combattants de haut niveau du MMA, c'est que j'étais étonné de voir qu'il y en avait certains, alors je caricature vachement, hein, mais qu'il y en avait certains qui étaient au top de leur performance juste avant le combat, enfin l'entraînement juste quelques semaines avant le combat, et qui après le combat prenaient en volume et en...
Ah ouais.
Ça je ne savais pas du tout que ça existait en fait.
Ouais, Bah, pour te donner une idée, il y a des mecs dans le circuit professionnel, surtout les Américains, parce qu'ils sont très forts pour le cutting, et puis en plus...
C'est une culture de lutte, tout ça.
Ouais, voilà. Puis, ils mangent pas que de la soupe, pour certains. Il y a des mecs qui sont à 100 kilos toute l'année et qui combattent à 77, par exemple.
Ouais.
Voilà. Il y a des mecs, un mec qui s'appelle Anderson Silva, que beaucoup connaissent, un Brésilien qui est là depuis des années et des années dans le circuit, combattait sur le circuit japonais avant, maintenant sur le circuit américain. Il a eu la ceinture de l'UFC pendant très longtemps. Lui, hors combat, il est aux alentours de 110 kilos et combat à 84.
Ah ouais, ouais. Tiens, je savais pas qu'il était aussi lourd. Ouais. D'accord. Ah ouais, ok, effectivement. Mais il y avait le cas aussi de...
Bah, quand il est vraiment hors combat, quoi.
Après,
après, quand il commence à prépa, il doit être...
Bien sûr.
Mais j'avais un peu la vision, un peu pas naïve, mais du mec qui est juste sportif et donc qui est fit toute l'année. Après, même quand il est à 110, je pense qu'il est quand même...
Alors, les mecs fit toute l'année, fit, genre musclé et sec toute l'année.
Sans parler de sécheresse, hein.
Mais ça, c'est dans les magazines.
D'accord.
Ça n'existe pas d'être fit toute l'année comme ça, mais...
Ouais, d'accord.
Mais ouais, ça m'a étonné en tout cas de voir des telles différences. Quoi.
Parce qu'il y a quand même.
Les mecs, quand tu les vois dans la cage ou à la pesée, ils sont archi affûtés. Mais toute l'année, des mecs, parfois ils sont un peu grassouillés, machin. Et tout.
Mais parce que justement.
Ça veut pas dire que c'est pas des super athlètes, attention.
Il y avait l'exemple de Anthony Johnson, qui lui, pendant longtemps, qui est une énorme marmule, qui combat en lourd léger, donc plus de 90 kilos. Ouais. Pendant longtemps, il combattait en welter, donc il combattait aux alentours de 77 kilos.
Ouais, mais bon, il a eu quelques problèmes à faire le poids, ça lui a valu des amendes, et il a loupé plusieurs fights.
C'est ça, ouais. Mais c'est ça que j'arrivais pas à comprendre. Genre, pourquoi ce mec, avec sa carrure, s'impose une perte pareille, quoi. C'est ça qui me.
Ouais. Parce qu'il y a aussi cette espèce de culture qui est du coaching et cette espèce de peur que les fighters ont de combattre dans leur catégorie naturelle de poids. Mm-hmm. Voilà, pour être encore une fois le plus fort possible, quoi.
Ouais.
Simple.
D'accord, ok.
Si aujourd'hui, Antoine, toi, tu pèses 80 kilos, je te dis, écoute, là, je vais te faire perdre 7-8 kilos pour que tu combattes en moins de 73 demain. Et demain tu seras de nouveau à 80 kilos dans la cage, tu vas me dire oui.
Ouais. Ouais.
Parce qu'après tu vas en chier. Hein.
Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. Rien que d'y penser, de toute façon, ça me saoule. Ouais. J'imagine que tu accordes quand même pas mal d'importance à ce que tu manges.
Ouais.
Ouais.
Ah ouais.
Est-ce que tu fais des écarts quand même des fois ou
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Chez les sportifs, on appelle ça les cheat meals, c'est les écarts.
Ouais.
Moi, j'en fais beaucoup. Puis voilà, maintenant je fais. Je suis pratiquant de sport à mon humble niveau, vraiment loisir, on peut appeler ça. Mais en tout cas, le lien entre sport et nutrition, il est très fort. Tu peux pas performer dans le sport en bouffant n'importe quoi toute l'année.
Bien sûr, ouais.
C'est pas possible. Comme tu peux pas performer dans le sport en sortant le soir tous les soirs ou performer dans le sport sans dormir la nuit.
Mmh.
Voilà. L'hygiène de vie, donc le sommeil, la nutrition, bien planifier ses entraînements, ça fait tout.
Mmh.
Ça fait tout. Ou en tout cas, ça fait la différence entre le mec qui va percer et le mec qui percera pas.
Ouais, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que t'évites absolument, niveau bouffe?
Moi, j'évite rien. J'essaye de toujours manger à peu près équilibré, manger varié, manger de tout, etc. Après, ce que je conseille à tous, c'est ce à quoi j'essaye de m'astreindre, c'est de limiter le plus possible tous les sucres rapides. Les sucres rapides, les sodas, les bonbons, les gâteaux. Et essayer de manger... le plus de fruits et légumes possible, pas seulement 5 fruits et légumes par jour, et de manger le moins de produits transformés possible.
Mmh.
Voilà. Cuisiner.
D'accord.
Aller chez votre boucher, aller chez le poissonnier, aller acheter des bons fruits et légumes bien frais. Voilà.
Ouais, d'accord.
Okay. Est-ce que justement je rebondis parce que tu as dit.
Après, si on veut parler vraiment nutrition du sport,
tu as dit équilibré.
C'est très bien.
Alors, il y a des mythes, tu vois, des mythes dans ce qu'on voit à la télé, tu vois, manger 5 fruits et légumes par jour, toutes les consignes que tout le monde entend. Est-ce que pour toi, il y a des choses. Que tout le monde sait entre guillemets mais qui sont entre guillemets pas vrais et des choses à éviter, est-ce qu'il y a des choses comme ça, tu vois, les 5 fruits et légumes, toi tu dis beaucoup plus, est-ce qu'il y a des choses dans ce genre là quoi?
Non,
alors spécifique au sport, comme t'as l'air bondir là-dessus.
Spécifique au sport, le sportif il doit manger plus et mieux que les autres. Dans les sports de combat c'est encore plus vrai, et dans les sports de force c'est encore plus particulier. Voilà, il doit manger très protéiné. Il doit fractionner ses repas. Il doit vraiment avoir une vraie diète suivie. Si c'est suivi par un pro, c'est encore mieux. Voilà. En tout cas, non. Ouais, les 5 fruits et légumes, non, c'est bien. C'est mignon, quoi.
Ouais.
On va dire que c'est un bon début, quoi.
Ouais.
Ouais, ouais. Est-ce que tu as un avis en particulier, alors ça c'est vraiment juste pour ma curiosité personnelle, sur le sang gluten?
Le sang gluten, non. Alors, le sang gluten, c'est bon pour les intolérants.
Ouais, d'accord. Voilà. Ceux qui peuvent vraiment pas en consommer.
Stop.
Ouais.
Sinon, c'est un pur produit commercial. Je pense qu'il faut. C'est ce que je t'ai dit il y a 2 minutes. Je pense qu'il faut manger de tout. Il faut manger varié, il faut manger équilibré, il faut aussi essayer de se faire plaisir un peu dans l'assiette. Et tous les mois, il y a des nouvelles modes, des nouveaux régimes, des machins, des trucs.
Ouais, d'accord, ok.
Dédicace à tous les véganes. Je vous kiffe.
Ça, j'en connais aucun des véganes, quoi, mais...
Ah oui, ah, ouais. j'en connais plusieurs.
Ouais, ils sont sportifs ?
Ouais, je connais des véganes sportifs. D'ailleurs, le 8 et 9 avril, j'accompagne un petit jeune sur une compétition de powerlifting qui est végane.
Powerlifting ?
Ouais.
C'est quoi du powerlifting ?
Alors, powerlifting, c'est une compétition de sport de force.
Ouais.
On fait principalement du squat, du soulevé de terre et du développé couché.
Ok. Ah ouais ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il bouffe alors en tant que végane pour développer, quoi ?
Alors, forcément, pour faire d'apport, pour faire du muscle, il faut qu'il ait des apports protéiques. Et ça, on peut être végane et on peut être végétarien et avoir des apports protéiques nécessaires. Il faut juste aller les trouver dans autre chose que de la viande ou du poisson et ou des œufs. Donc il faut des protéines d'origine végétale. Ça se trouve ?
Ouais, d'accord.
Voilà.
Ok, bon. Très bien. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions ?
Moi, j'ai pas de grandes questions. Je veux juste que s'il y a des choses. Enfin, voilà. Moi, j'en profite parce que tu as plein de connaissances.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a des choses. C'est pour ça que je te parlais de vérité générale. Est-ce qu'il y a des fausses vérités, des trucs comme ça ?
Mm-hmm.
Après, bon, il n'y a pas tout qui te passe par la tête forcément maintenant. Mais est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais parler ? Tu as parlé des trucs essentiels sur. Tout ce qui était étirement, enfin des. Voilà, mm-hmm. T'as bien expliqué plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses en termes de santé, en termes de sport, en termes de mauvaise conception de la vie dont tu veux parler
Des messages à faire passer absolument.
Ouais, des
messages
à faire passer.
Non, le message à faire passer, si on parle de sport, c'est faites du sport, bougez. Il n'y a pas de sport idéal. Souvent, moi, c'est les questions de mes patients, c'est Rémi, qu'est-ce que je devrais faire comme sport ? Je sais pas, ce qui te plaît.
Ouais.
Ce qui te fait vibrer. Voilà. Si quelqu'un se pose une question, bah, qu'est-ce que je pourrais faire comme sport ? Bah, qu'est-ce que tu regardes le plus à la télé ? Tiens, t'aimes bien le tennis ? Bah, allez, ouais. Sors, va faire du tennis. Bouger, c'est archi important. La sédentarité, c'est dangereux.
Ouais.
Vraiment. C'est-à-dire que ça tue. D'accord ? Si tu bouffes mal, si t'es sédentaire, etc. Voilà. Donc bouger, ça c'est un message que j'aimerais faire passer à la population générale. Après, chez les sportifs, il n'y a pas de recette miracle. Entraînez-vous beaucoup. Il n'y a pas de secret ni pour récupérer ni pour être plus fort que le voisin, etc. Voilà, dormez, faites vos heures, bouffez convenablement, entraînez-vous bien et voilà, et ça paiera.
Valentin et moi, on a souvent eu ce sujet de conversation, notamment sur le podcast. Dans notre entourage, on est quand même très peu nombreux, donc lui et moi, à avoir quand même une bonne hygiène de vie.
Mm-hmm.
Toi, en tant que sportif, est-ce que tu es entouré que de sportifs ou tu as quand même des potes qui... ou des gens dans la famille qui sont te dire, est-ce que des fois tu te sens un peu seul dans...
Non, bah en fait je suis quand même beaucoup entouré de sportifs,
ouais,
par la force des choses, parce que j'ai mis les miens au sport, et ouais. Parce que du coup en fait les copains du sport ça devient les copains de la vie, et voilà, et puis après non, mais j'ai plein de potes qui déconnent, qui bouffent n'importe quoi, qui picolent tout le temps, etc. Ça m'arrive aussi de faire la fête, et voilà, non, c'est cool. Ouais. C'est ça ta question ?
Oui, en gros, non, c'était pas. Enfin, tu t'es.
Non, je me sens pas seul.
Tu te sens pas seul, quoi.
Non, ouais. Oh, t'inquiète.
Antoine, il m'en parle souvent, il se sent seul.
Ouais.
Ouais. Mais c'est, on a des potes qui
sont. Non, mais. Par contre, ce qui est vrai, c'est. Non, mais tu soulèves une vraie question intéressante. C'est que le sportif, parfois, quand il est mal entouré, ben, y a tout qui part en vrille. Et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et des fois, c'est dur, mais il faut savoir faire le tri. Le petit mec de 17-18 ans qui a envie de faire une carrière, mais tous ses potes ils font la bringue tous les soirs, ils ont une hygiène de vie dégueulasse. Bah, faut que. Voilà.
Ouais.
Faut qu'il leur dise, oh les gars, là je vais pas vous voir pendant un petit bout de temps et tout. Parce qu'il faut avoir une sacrée force hein, pour pas bringuer quand tous tes potes le font.
T'as été amené à faire ça ? Genre couper des ponts un peu
Ouais, bah par exemple quand j'étais étudiant kiné et que je combattais, ben voilà, je voyais mes potes faire la fête, moi je faisais pas la fête. Quand je préparais mon dernier combat qui a été annulé d'ailleurs il y a 4-5 ans de ça et que je devais perdre du poids, bah, le soir j'étais au resto, mes potes faisaient une bonne bouffe, ils buvaient un bon verre de vin, bah, moi je mangeais mes doigts quoi. Et je buvais de l'eau.
D'accord, ok, ouais. Mais ça t'a jamais ça t'a jamais genre mis de côté quoi, pour être un peu dramatique?
Mais non, ça met de côté personne ça.
D'accord, ok, ah, ouais.
Ouais,
je me sens moins seul. Non, bah écoute.
Faut de la volonté.
Non, mais c'est ça, faut de la volonté, bien sûr.
Faut de la volonté. Ouais. Faut de la volonté, mais il faut pas non plus être trop sévère avec soi-même, parce que sinon, on tient pas. C'est comme les régimes, quoi. T'en as parlé tout à l'heure, c'est pareil.
Ouais. Ça, j'ai l'impression que ouais, souvent, des gens un peu lambda, comme entre guillemets, comme Valentin et moi, qui se mettent au sport, ils ont tendance à mettre une pression de fou, en fait. Parce que pour eux, genre, se mettre au sport, c'est comme genre faire un, adopter un changement radical de vie, alors que...
Alors que non.
Alors que non.
Faut l'intégrer, quoi.
Ouais, faut intégrer.
Tu peux faire les deux. Hein.
Ouais, bien sûr.
Tu peux manger, faire un peu la bringue avec les copains et faire du sport. Ouais. C'est mieux que de faire que la bringue sans faire de sport.
Ouais.
Ouais, d'accord.
Ouais, c'est sûr.
C'est clair. C'est clair.
Et puis en général, après, l'hygiène de vie, ça va avec. Parce que quand tu fais beaucoup de sport, t'as pas envie de tout gâcher, tu sais.
Mm. Voilà. Ouais. Ouais. Très bien, très bien. Écoute,
ouais, voilà.
Valentin. Non, moi j'ai fait le tour. Moi, je veux savoir où est-ce qu'on peut te retrouver physiquement sur internet, tout ça. Enfin, si tu veux balancer, faire ta pub.
Est-ce que t'as envie de faire un promo?
Est-ce que tu veux. Ou même parce que t'as parlé d'un nutritionniste ou c'était Walid.
Ah ça oui. Alors,
est-ce que tu y a voilà, ouais. des
gens, alors moi, alors,
tu veux orienter les gens vers des.
Deux choses. Déjà, moi, en tant que kiné, je suis tenu à un code de déontologie. J'ai pas le droit de faire de pub.
Sérieux ?
Ouais. D'accord. Et en plus, je touche du bois, j'ai pas besoin de pub,
ouais.
Ça va. J'ai du taf, j'en ai même trop, parfois. Par contre, j'en profite du coup pour donner les contacts de Walid, si vous voulez, qui est un bon nutritionniste du sport, parce qu'on a quand même parlé nutrition.
Ouais.
Il s'appelle Walid Kevlar. Vous pouvez retrouver ça, vous tapez Walid Kevlar sur Google, à mon avis, vous allez vite retrouver son Instagram ou son Facebook. Vous pouvez le contacter sur la page Facebook Kevlar Diet, K-E-V-L-2-A-R Diet, D-I-E-T. Et c'est vraiment un bon gars, il bosse bien. Donc pour les nanas qui veulent perdre du poids, pour les sportifs qui veulent être performants, etc., n'hésitez pas. Voilà. Après, pas de pub. Bah, merci à vous, c'était sympa.
Bah non, merci à toi.
Merci à toi, ouais. C'est cool.
C'est cool. Et puis, nous, on va se faire un peu de pub pour nous-mêmes.
Vas-y.
On est sur Twitter, donc PSLT_ podcast, je crois que c'est ça, normalement, mais si vous googlez ça, ça devrait ressortir. Et on est sur Tumblr aussi, à la même adresse. Hein.
Ouais, non, sauf que c'est PSLT-6.
Tiret du 6.
Podcast Tumblr.
Voilà, c'est ça. Et sur Tumblr et sur Twitter, on essaie de rester actif. On balance des liens sur des bons combats. On fait des news. Enfin, voilà, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à nous envoyer un mail sur pointsuratable.
Pluriel,
@gmail.com, on aimerait bien avoir de vos retours. Voilà, ciao.
Merci, salut.
Salut, merci beaucoup.
C'est dans la boîte.